VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Crise en Gambie, les troupes d'une force régionale sont depuis dimanche à Banjul, la capitale, où elles ont été accueillies par une foule enthousiaste, quelques heures après le départ du président sortant Yahya Jammeh. Celui-ci a trouvé refuge en Guinée équatoriale après une brève escale à Conakry. La MICEGA, la mission de la CDAO en Gambie, doit ouvrir la voie au retour du président Adama Barrow, qui a prêté serment à l'ambassade de Gambie à Dakar le jeudi 19 janvier. Jean-Roger Bion nous résume les principaux points de l'actualité gambienne.
Jusqu'à dimanche soir, aucune déclaration n'a été faite sur le retour en Gambie du nouveau président, mais on laisse entendre qu'il le ferait dès que possible. Marcel Alain de Souza de la CDAO a fait savoir que certains éléments des forces de sécurité gambiennes doivent être immobilisés avant le retour d'Adama Barrow. Un autre porte-parole a déclaré aux journalistes à Banjul que la capitale serait inspectée ce lundi pour déterminer si la sécurité est adéquate pour le retour en toute sécurité de M. Barrow. Le département d'État américain a salué la transition pacifique en cours du pouvoir en Gambie et a félicité Adama Barrow pour son investiture. Le porte-parole intérimaire Mark Turner a également salué la modération montrée par le peuple gambien au cours des dernières semaines alors que Yahya Jammeh cherchait vainement à s'accrocher au pouvoir. Séparément hier, un haut conseiller de M. Barrow, s'exprimant au Sénégal, a allégué que Jammeh a pillé les comptes bancaires du gouvernement dans les derniers jours de son règne. Maï Amaï Fati a déclaré aux journalistes que les coffres de sa petite nation sont, selon lui, pratiquement vides. Selon lui, le ministère des Finances et la Banque centrale de Gambie avaient confirmé que plus de 11 millions de dollars ont disparu au cours des deux dernières semaines seulement. Pourtant, la CDAO, l'Union africaine et l'ONU ont annoncé garantir les droits de l'ex-président, y compris à revenir dans son pays, tout en se portant garante de ses propriétés, celles de sa famille et des membres de son régime ou de son parti.
Au Burkina Faso, le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale veut faire la lumière sur le contentieux des militaires radiés en 2011 et sur leur hiérarchie. Après plusieurs manifestations pacifiques, les représentants de ces soldats se sont adressés aux membres du Haut Conseil afin de chercher à trouver une issue favorable à leur situation. De Ouagadougou, les précisions de notre correspondant sur place, Issa Napon.
Si nombre de ces militaires sont véritablement coupables pour s'être mutinés avec violence, la plupart d'entre ceux qui ont subi les fourches caudines de leur hiérarchie crient à l'injustice. Valentin est de ces derniers.
Vous ne pouvez pas comprendre qu'il y ait cette injustice-là. Des cousins, des officiers qui ont pillé et qui sont toujours dans les rangs. On a leur nom, on a tout. Quand même, soyons, on est où? On est au Burkina Faso ici-là.
Beaucoup de ces militaires auraient plutôt été remerciés pour des motifs étrangers à la fameuse mutinerie et la procédure en la matière n'aurait pas été suivie. Explique Hervé Tapsoba.
Personne n'a été jugé. C'est après la radiation que les gens ont été poursuivis. Juridiquement, c'est arbitraire parce que les textes militaires prévoient d'avoir une commission d'enquête qui doit procéder à des enquêtes. Le conseil de discipline statue et c'est à l'issue de ce conseil qu'on peut transmettre un dossier à la justice avant qu'une décision ne soit prise.
Le Haut Conseil pour la Réconciliation et l'Unité Nationale, saisi en dernier ressort aujourd'hui sous la nouvelle administration, indique les préalables pour résoudre cette question.
Ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Nous vérifions s'il faut entendre des personnes, la hiérarchie, on les entendra. À la suite, on verra.
566 militaires avaient été radiés en juillet 2011 à l'issue de violentes mutineries qui avaient vu les populations violentées et pillées à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les deux plus grandes villes du Burkina Faso, mais aussi contribué à pourrir le pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Politique au Burundi, les représentants de l'opposition politique, de la société civile et de la diaspora burundaise se sont réunis ce week-end en Belgique pour arrêter une stratégie commune contre le pouvoir burundais. D'après l'AFP, cette réunion a rassemblé 34 personnalités, dont les principales figures politiques du pays regroupées au sein du Sénared et des délégués de la société civile ayant fui le Burundi en raison de la répression sanglante qui s'est abattue sur le pays. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis l'annonce en avril 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé et son élection en juillet de la même année. Les violences ont déjà fait plus de 500 morts et poussé plus de 300 000 personnes à quitter le pays depuis avril 2015. Et puis à Maurice, le premier ministre mauricien Sir Anero Djougnot a présenté ce lundi sa démission à la présidente Amina Gourib Fakim, qui a aussitôt nommé son fils Pravin Djougnot pour le remplacer. Monsieur Djougnot, 86 ans, est un classique de la vie politique mauricienne. Il avait annoncé samedi son intention de ne pas aller au bout de son mandat censé prendre fin en 2019. Pravin Djougnot, 55 ans, et actuel ministre des Finances, est le chef du mouvement socialiste mauricien MSM, le principal parti de la coalition au pouvoir. C'est à ce titre que la présidente Gourib Fakim lui a demandé de succéder à son père.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 au Gabon maintenant. Le Gabon, pays organisateur, est éliminé et le Cameroun termine deuxième du groupe A. Hier, à l'issue de la troisième journée dans ce groupe A, le Gabon a été tenu en échec 0 partout par les Lions indomptables camerounais et le Burkina Faso a battu le petit pousset de cette 31e CAN, la Guinée-Bissau, 2-0. Bernard Traoré de la sélection burkinabé est satisfait de son équipe. On l'écoute.
Franchement, ce soir, c'était la qualification qui était en jeu. Peu importe la place, il fallait se qualifier. Mais sortir premier du groupe, c'est lancer un signal fort à tout le monde qu'on est là, qu'on est présent.
À suivre ce lundi dans le groupe B, Tunisie, Zimbabwe, Sénégal, Algérie, les Lions de la Teranga sont déjà qualifiés alors que les Fennecs algériens doivent absolument l'emporter pour espérer voir les quarts de finale. L'attribution de la CAN 2017 au Gabon a suscité une vive controverse dans ce pays. D'aucuns estiment qu'il fallait s'occuper d'autres priorités comme la crise économique à laquelle s'est ajoutée une crise électorale. L'opposition et les organisations de la société civile ont appelé à un boycott pur et simple de la compétition. Qu'en est-il? Le point avec notre envoyé spécial à la CAN, Timothée Donangmaï.
Le coup d'envoi de la CAN ne pouvait pas avoir lieu sous de meilleurs auspices. Selon le décompte officiel, 38 000 fans avaient pris place à cette occasion au stade de l'Amitié de Libreville qui compte 40 000 places. À Port-Gentil également, la foule était au rendez-vous pour les premiers matchs du groupe D, mais plus personne à Oyem et Franceville. C'est bien la preuve que l'appel au boycott n'a eu aucun impact, estime Pierre-Alain Mungengui, président de la Fédération Gabonaise de Football, la FEGAFOOT.
Les stades sont, je ne dirais pas pleins à 100%, mais à 97-98%, les stades sont pleins. Donc, on ne peut pas poser cette question aujourd'hui de savoir si le boycott a été suivi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Selon le président de la FEGAFOOT, c'est un trait culturel des fans gabonais de n'entrer au stade qu'à la dernière minute, comme lors de l'exécution des hymnes nationaux par exemple. Et le stade se remplit progressivement. Georges Mpaga, l'un des leaders de la société civile, affirme que l'appel au boycott de la CAN 2017 a eu un impact.
La moyenne de 50% ou 30% de taux de remplissage des stades est composée des Maliens, Sénégalais, Burkinabés, qui sont très très nombreux, Camerounais au Gabon, qui viennent supporter leurs équipes. Maintenant, en ce qui concerne les Gabonais, on est obligé aujourd'hui de mobiliser les jeunes dans les établissements. Ils sont corrompus moyennant 5 à 10 000 francs CFA pour suivre les matchs de football.
Berma Aissatou est une commerçante venue du Cameroun pour vendre les gadgets de la CAN 2017. Elle dit sentir l'effet du boycott.
Les marchandises, ce qui est basé pour le Cameroun, ça passe très bien. Mais le Gabon s'est bloqué.
Mais pourquoi cette situation?
Passé, ils sont découragés. Passé, beaucoup de fois, ils passent là, ils m'insultent qu'ils ne sont pas dans la CAN. Machin, je crois que c'est pour ça que les marchandises là, ça ne passe pas.
Autre opinion, celle de Fiacre, un jeune Gabonais.
La CAN se passe bien. Tout le monde est au stade. Tous les Gabonais sont au stade. Force, une force, un peu, ça se passe bien. Pas de soucis. Justement des rumeurs par-ci par-là.
Donc le boycott n'a pas d'impact.
Non, il n'y a pas d'impact.
Certains pensent que l'élimination des Panthères va tiédir l'enthousiasme des fans gabonais. Jean-Christ Mendama, superviseur technique en charge du centre de presse du stade de l'Amitié de Libreville, est plutôt optimiste.
Le peuple gabonais, c'est un peuple sportif. Et j'ose espérer que malgré l'élimination de l'équipe gabonaise, que le public va continuer à venir au stade. J'invite le public à venir au stade parce que nous assistons à du très beau football.
La suite de la CAN 2017 sans les Panthères permettra de juger le niveau réel du soutien des Gabonais à la grand-messe du football africain. Timothée Donangbaï, Libreville, VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.